En avril dernier, j'avais quelques minutes avec les jeunes, dans le groupe de jeunes, et donc j'ai abordé le psaume 73. Et j'avais beaucoup plus à dire, bien sûr, parce que quand on a 5 minutes, mais vraiment chrono, hein, 5 minutes, on ne dit pas grand-chose. Et donc je trouve ce psaume absolument, fondamentalement important. Et donc, comme je suis content d'avoir les jeunes ce matin, je vais pouvoir continuer un peu sur cette lancée. Donc, quand
j'avais 18 ans, je me souviens, j'avais pris la voiture de mes parents et j'ai pris un homme en autostop. Il cherchait à ce que je l'amène à une église pour être hébergé pour la nuit, une église catholique. Et donc, moi, je cherchais à être un témoignage à cet homme. On est arrivé à l'église, elle était fermée. Donc, comme je cherchais à être un témoignage, lui présenter l'évangile, bon, j'ai cherché une solution pour cet homme. Et donc, allant à droite, à gauche, j'ai finalement eu mon premier accident de voiture. Alors, vous imaginez ce qui peut passer dans ma tête à ce moment-là, c'est de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, là, j'essaye de faire quelque chose de bien, j'essaye de témoigner à cet homme, j'essaye d'aimer les autres, et voilà comment je suis repayé en retour. Alors, vous allez dire, oui, bon, c'est peut-être une anecdote anodine, mais... Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations comme cela, des situations qui peuvent devenir plus difficiles parfois. On peut se dire, mais Seigneur, j'ai fait des bons choix. Regarde la situation de santé dans laquelle je me trouve. Regarde ce qu'on a vécu avec Jenny ces 2 dernières années. Comment ça se fait? Regarde ceux qui ne font pas des choix qui sont justes. Regarde eux, il ne leur arrive rien. Pourquoi? Le psaume 73 nous parle de ce genre de problème. Et donc, il va parler de cette détresse qui peut être destructive, ou à la fin du psaume, d'un bien-être profond. Parce que ce que je suis en train de dire comme événement peut produire une détresse qui est en fait destructive, qui va vous amener à un point où vous êtes sur un sentier, comme un sentier montagneux, et puis le gouffre à droite devient de plus en plus profond et le sentier devient de plus en plus étroit. Et il devient glissant. Et vous dites, mais Seigneur, quelques centaines de mètres de plus, et je vais glisser. Mes pas vont glisser, je vais tomber dans ce gouffre, un point de non-retour. Une détresse destructrice, triste. Et lorsque on a toute cette agitation intérieure, cette souffrance, je vous pose une question. Est-ce que la personne peut être un témoignage pour le Seigneur? La réponse est non. Absolument pas. On ne peut pas être ainsi un témoignage. Pourtant, alors que nous contemplons le début de ce psaume, qui nous parle d'un gros problème, nous allons revenir dessus, on voit que ce gros problème fait obstacle à mon témoignage. Vers la fin du psaume, il nous parle d'un bien-être profond. Et on peut lire la fin de ce psaume, je vais vous lire le dernier verset du psaume qui dit ceci. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Alors vous regardez la fin de ce psaume et vous savez pertinemment qu'il y a un témoignage convaincant parce qu'il est là, il a un bien-être profond, il veut en parler, il veut raconter les œuvres de Dieu. Donc il y a une différence entre le début de ce psaume, un problème qui fait obstacle au témoignage, et la fin du psaume avec un bien-être profond qui produit un témoignage convaincant. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a quelque chose d'extraordinaire, une expérience qui transforme. On va revenir là-dessus. Quelle est cette expérience qui transforme? Qu'est-ce qui me change? Alors le gros problème, vous posez la question, c'est quoi ce gros problème? Je vais lire le texte, on ne va pas lire tous les versets, mais je vais commencer au verset 2. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Alors vous allez vous dire, mais c'est qui les méchants? Ça peut désigner des gens qui sont mauvais, mais aussi simplement des gens qui sont hostiles à Dieu. D'ailleurs, vers la fin du psaume, il est dit clairement qu'il s'agit de personnes qui se sont éloignées de Dieu, des personnes qui ne sont pas fidèles à Dieu. Et donc, Il s'agit tout simplement d'un croyant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient en Dieu voulaient nécessairement suivre ce que Dieu demandait. Ils voulaient vivre pour Dieu. Et ceux qui ne croyaient pas en Dieu vivaient pour eux-mêmes. Donc quand on dit méchant, quand on dit insensé, on est en train de parler d'un croyant. Et je vais utiliser ce terme pour que ce soit plus clair dans nos pensées. Voilà ce qu'il est en train de dire sur les incroyants. Alors, suivez le texte parce que vous essayez de discerner vous-même quel est ce problème. Quel est le problème, le gros problème auquel Asaph est confronté. Verset 4. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Leurs pensées, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi mon peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit... Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi que les choses sont. Quel est ce problème? Alors, si vous aviez à répondre, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez, comme la Bible Scofield que j'ai, il y a un titre, « Le problème de la prospérité des méchants ». C'est ça le problème? Non, ce n'est pas le problème. Beaucoup vont dire que c'est ça, mais ça n'est pas le problème, et vous allez voir, alors que je vais en parler, pourquoi ça n'est pas le problème. Est-ce que le problème, c'est la justice de Dieu qui est remise en cause? Vous savez, Job va oser dire à Dieu qu'il serait plus juste que Dieu, en bénissant celui qui est juste et en jugeant celui qui est méchant. Mais là, Asaph ne va même pas dire ça, ça n'est pas le problème. Si vous regardez attentivement, le problème est dit de façon très claire, versets 2 et 3. Il dit, voilà, j'allais glisser, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Le problème, clairement dit dans le psaume, c'est l'envie. L'envie. Je portais envie. C'est une chose que d'observer les non-croyants autour de nous et leur façon de vivre, parfois immorale, de les voir prospérer, ça peut ne pas me déranger. Mais c'est une autre chose que de les envier. Il ne s'agit pas d'envier leur façon de vivre dans le fait qu'ils sont incroyants, leur orgueil, leur égoïsme, leur méchanceté, mais envier le fait qu'ils ne semblent pas avoir les problèmes que moi j'ai. Envier le fait qu'ils semblent s'éclater. Pire, je m'efforce, moi, de prendre de bonnes décisions dans ma vie, de vivre pour Dieu et pas eux. Et moi, j'ai des problèmes et pas eux. Alors, si vous n'arrivez pas bien à voir la diapo, il y a une clôture. La vache est en train de brouter de l'autre côté, bien sûr, parce que vous avez entendu l'expression, que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe plus verte qui se trouve de l'autre côté. Alors, je sais, certains d'entre vous, si vous n'avez jamais quitté la région, vous ne savez même pas ce que c'est une vache, vous n'en avez jamais vu. Moi, j'ai été élevé dans le Limousin, donc j'en ai vu plein. Mais c'est un peu comme ça qu'on regarde les choses. Hein, c'est de dire, mais Seigneur, je me suis trompé de bateau. Parce que je me retrouve ici, sur un cargo, à cuire, au soleil, pendant l'été, j'ai soif, j'ai rien à boire, je suis là, et tous les chrétiens sont là, à suer à côté de moi, il faut par devoir astiquer ce pont, alors que, oh, mirage, le mérideux est en train de passer. Je pourrais presque prendre mon élan et sauter dessus. Il est là et tous les incroyants sont à bord. Et eux, ils ont 5 piscines et ils ont de la nourriture exotique. Et eux, ils ont de la danse et ils s'amusent, ils s'éclatent. J'ai soif. Versets 13 et 14 dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Un exemple que j'ai vu de nombreuses fois, un jeune homme, une jeune femme de 30 ans qui s'est convertie peut-être quelques années auparavant, qui veut se marier plus que tout, mais Dieu ne lui a pas donné de conjoint pour l'instant. Or, la Bible enseigne qu'il ou elle ne devrait pas se marier avec un incroyant. Par exemple, un homme devrait bien sûr attendre la personne, un homme ou une femme devrait attendre la bonne personne, devrait attendre le mariage pour avoir des relations conjugales. Et là, l'homme peut dire, mais mes copains, eux, mes copains célibataires qui sont incroyants, ils s'éclatent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les femmes, ils n'ont pas de restrictions. Et moi, j'essaye de faire des choix justes et Dieu ne m'a pas donné un conjoint. Voyez ma détresse. Voyez que finalement, être chrétien ne m'aide pas dans mon être intérieur, dans ma détresse. Ça fait le contraire. Vous voyez ce qu'on peut penser dans la détresse? Si seulement telle ou telle chose, si seulement ma solitude n'était pas là, si je pouvais enlever cette solitude, je ne serais pas dans la détresse. Si Dieu pouvait changer ce qui m'entoure, si ce qui m'entoure n'était pas là pour me pousser à bout, je ne serais pas en danger de glisser dans ce gouffre. Alors, je vous rappelle ce verset 3. C'est quoi le danger? C'est pas ce qui m'entoure. C'est mon cœur. C'est l'envie. Le vrai danger ne vient pas de ce qui m'entoure, mais de mon cœur. L'envie. Le vrai danger ne vient pas de ce qui m'entoure, mais de mon cœur. L'envie. Alors, j'ai besoin d'être assez honnête pour me sentir concerné. J'y étais ou j'y suis. Vous savez, on passe par ces moments, on y a été peut-être, on est peut-être en plein dedans, mais très très fort aujourd'hui, dans cette détresse. Ce n'est pas pour mon voisin, c'est pour moi. Hein. Où est-ce que je suis? Comment je pense tout ça? Et vous vous êtes dit, oui, mais bon, j'arrive à bien le masquer. Et peut-être vous êtes en train de dire, voyez, je suis là et je dis à mes enfants qu'il faut vivre pour le Seigneur, mais vous savez, on ne peut pas cacher en fait cette détresse, on ne peut pas cacher, même dans les paroles qu'on dit, ça se lit. Peut-être vous êtes en train de dire à vos enfants, à vos ados, « Oh ma fille, mon fils, tu vois, Dieu veut que tu restes dans ce petit enclos-là. Il y a des fils barbelés tout autour. Je sais que l'herbe est toute desséchée, hein, c'est toute brune. Tu vas peut-être mourir de faim. » Ouais, l'herbe de l'autre côté de la barrière, elle est verte. Ouais, mais tu sais, c'est une bonne chose que tu restes ici parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est pour ton bien-être, c'est une bonne chose. Les ados ne sont pas dupes, hein, ils vous regardent et disent, mais ça n'a pas réussi toi, ça n'a pas été pour ton bonheur. Comment ça marcherait pour moi? Je crois que je préfère aller m'éclater avec mes copains, mes copines incroyantes pour un temps là, et peut-être plus tard, si je dois le faire, je me passerai la corde au cou. Certains glissent dans le gouffre et ne reviennent pas. Je portais envie aux insensés. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés. Deuxième chose que je veux dire, qui est quand même essentielle là-dedans, c'est que l'envie déforme la réalité. En fait, la perception d'Asaph n'est pas tout à fait juste. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Peut-être vous êtes trop jeune pour l'avoir connue. Hein, Margaret Thatcher, enfin vous la regardez, les détails de son visage sont bien réels, mais ils sont déformés. Vous vous demandez ce qu'elle a eu pour le petit déjeuner avant de prendre la photo, hein. Ouais. Tout est là. C'est la même chose avec l'envie. Les détails sont bien là. On n'arrive pas à percevoir entièrement ce qui est déformé. Les détails sont bien là, ils sont bien réels, mais c'est déformé. Ce n'est pas ainsi vraiment qu'est son visage. Un peu comme cette image ici, vous voyez, il va d'un côté et de l'autre. Dès qu'il est d'un côté, l'herbe devient plus verte de l'autre côté. Il arrive de l'autre côté, l'herbe devient plus verte du premier côté. C'est quand, comme moi, je veux aller à Marseille depuis hier, hein, le mardi matin, eh bien, le bouchon depuis l'échangeur là-bas vers les CRS, jusque par ici, il y a un bouchon. Et vous savez quoi? C'est toujours l'autre fil qui avance plus vite. Ouais, je ne vous mens pas. C'est toujours l'autre fil qui avance plus vite. Est-ce que c'est logique, ça? Vous avez réfléchi à ça? Même si vous êtes bon en maths, vous pourriez vous dire qu'une chance sur deux, quand même, d'être dans la bonne file. Mais l'envie déforme la réalité, surtout quand on est pressé. Vous savez, on peut avoir l'impression d'être comme ça. Là, il y a un dépôt d'ordures, une benne d'ordures. Et voilà, Seigneur, c'est là où tu m'as planté. Hein? Tous les autres, ils sont là-bas, voilà, ils ont l'herbe verte, mais moi, je suis sur un tas d'ordures. Regardez comme c'est déformé dans ce psaume 73. Regardez verset 5. Il parle des méchants, des incroyants. Il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et je vous pose une question toute simple. Vous n'avez jamais vu un incroyant souffrir? Il a bien dit ici, hein, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est vrai ça? Regardez verset 12. Ainsi sont les méchants ou les incroyants, ils sont toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Toujours heureux. Vous avez bien remarqué, toujours heureux. Vous savez que la deuxième cause de mortalité en France pour les gens de 15 ans à 44 ans et le suicide. Toujours heureux? Vous y croyez? Verset 14. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Vous ne pensez pas que Asaph a aussi une perspective déformée? Alors je ne sais pas, je ne connais pas sa situation exacte, mais j'ai la conviction que sa perspective était déformée parce qu'il le dit plus tard. Si vous regardez dans le texte, au verset 22, il dit « J'étais stupide et sans intelligence. Dans ma manière de penser, je ne voyais pas les choses telles qu'elles étaient. » Donc il va le dire lui-même que sa pensée était déformée. Oui, certainement. Lorsque nous avons ce regard d'envie, notre pensée est déformée. Peut-être, et je parle en particulier aux jeunes, peut-être on vous fait miroiter des choses et votre pensée peut être déformée par l'envie. Les choses ne sont pas ainsi. Alors, on a parlé de ce gros problème, l'envie. Il y a une expérience qui transforme au centre de ce psaume. Et cette expérience, on va la lire, versets 16 et 17. « Lorsque je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » J'aimerais simplement dire en lisant ce verset que forcément, au verset 15, il dit, voilà, j'avais envie de parler comme les incroyants, mais je ne pouvais pas, parce que ce serait un mauvais témoignage. Et verset 16, il dit, mais je suis quand même vraiment en difficulté ici, il n'arrive pas à parler. Il n'est pas un témoignage, il ne peut pas être un témoignage. Et il dit, jusqu'à, verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il est allé au ciel, comme Paul, au troisième ciel, et il a vu quelque chose? Du tout. Hein. Le mot sanctuaire, singulier au pluriel, dans l'Ancien Testament, désigne le tabernacle ou le temple, un lieu saint où l'on rencontre Dieu. C'est un temps de rencontre avec Dieu, c'est tout. Il est juste en train de parler d'un temps de rencontre avec Dieu. C'est ce que nous pouvons appeler l'adoration ou la communion avec Dieu. Hein, donc j'ai mis l'adoration, la communion avec Dieu. L'adoration a un effet singulier. Ça me donne une juste perspective. Ça me redonne une juste perspective. Alors vous allez vous dire, mais comment ça marche? Comment est-ce que concrètement cela peut marcher pour me changer, pour que je passe d'une situation de détresse destructive à une situation de bien-être profond? Prenez par exemple le psaume 23 que vous connaissez. Vous commencer à lire le psaume et à parler à Dieu sur ce psaume. Vous dites, l'Éternel est mon berger. C'est pas beau, ça? Et pas juste l'Éternel est le berger, celui qui conduit le troupeau. C'est l'Éternel est mon berger à moi. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et là, vous êtes en train de dire, attends, on n'est plus en train de parler d'un enclos tout petit avec des barbelés tout autour, on est en train de parler d'un grand espace vert et je commence à voir ce que Dieu a mis dans ma vie. Je regarde ma famille, je regarde mon épouse, je regarde le salut qu'il m'a donné en Christ et je regarde la famille de Dieu que vous êtes et je suis transformé par les bénédictions que Dieu me donne. Je commence à voir ce pâturage. Oui, c'est vert, oui, c'est vaste, oui, c'est extraordinaire, c'est comme un paradis. Il me dirige près des eaux paisibles. Je suis assoiffé. Ouais. Vous savez, quand vous avez soif, vous avez travaillé dehors sans boire toute une après-midi d'été, et là, tout d'un coup, vous prenez un verre d'eau et vous sentez cette eau qui descend dans votre corps. Et c'est comme si ça ne descend pas juste dans l'estomac, c'est comme si ça descend jusqu'au bout des doigts. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Il me donne à boire quand j'ai soif. Il restaure mon âme, c'est pas beau ça? Parfois, on pense, hé, Joël, quand tu n'es pas bien, quand tu te sens triste ou autre, ou découragé, Dieu, il est là. Et, allez, debout, Joël, arrête de te plaindre, pense aux autres, tu as des visites à faire, tu as des choses à faire, allez, debout. Il n'est pas comme ça, mon Dieu. Non. Il a à cœur mon âme. Il restaure mon âme. Viens, Joël, prends un temps. Viens avec moi. Prends un temps. J'ai à cœur la santé de ton âme. C'est beau quand même comme verset. Pensez à la fin du psaume. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours et je suis là à dire à Dieu, mais je passerai l'éternité dans cet endroit que tu as créé, un endroit indescriptible, un endroit magnifique, un endroit... c'est magnifique. Celui qui a le Fils... Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et je me dis, voilà, je crois en Jésus-Christ, et j'ai la vie éternelle. Pensez aux incroyants qui, eux, ne croient pas au Fils, qui ont mis toutes leurs billes, si vous voulez, du même côté. Ils ont misé sur la richesse, la renommée, la santé, toutes ces choses qui pour eux sont importantes, qui sont immédiates, qui sont là. Mais quand ils meurent, qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Même avant, parfois, ces choses peuvent partir. Vous savez, ils n'ont rien à envier. Parce que Dieu ne laissera pas un homme se moquer de lui indéfiniment. Un jour, il sera jugé. La justice, ta justice, Dieu sera manifestée. Ta sainteté l'exige. Et ces hommes qui peuvent mettre toute leur confiance dans les richesses, la santé, la renommée, s'ils n'ont pas mis leur foi en Christ un jour, ils vont tout perdre. Voyez, de passer un temps d'adoration avec Dieu, ça apporte une juste perspective. L'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté de la barrière. Les incroyants n'ont rien à envier. C'est ce verset 18 et 19 dans le texte. Oui, tu les plantes, tu les places près des voies glissantes, tu les fais tomber, etc. etc. Regardez la suite, verset 21, lorsque mon cœur s'est grissé, lorsque je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Voilà. J'étais myope auparavant. Je voyais que les choses de près. Maintenant, je vois la totalité. Mon cœur, mes entrailles, c'est des mots pour parler de mon être intérieur. Je maigrissais, j'étais amer. J'étais comme transpercé dans mon cœur. C'était insoutenable. Ça peut donner lieu à une dépression, vous savez. Pourquoi? Parce que, verset 3, je portais envie. C'est là le point de départ. Je portais envie. J'étais stupide. je gronde mes enfants, moi, quand ils disent à un de leurs frères ou sœurs, « T'es bête ou t'es stupide. » Par contre, s'ils le disent d'eux-mêmes, « Je suis stupide », ça va, ça passe, c'est biblique. C'est là, voyez, regardez, c'est dans le texte. « J'étais stupide. » Donc vous pouvez le dire, ça va. Voyez, qu'est-ce qu'il était en train de penser avant ? Il dit, voilà, j'avais purifié mon cœur, j'avais lavé mes mains, j'étais bien finalement. J'étais un homme, voyez, pur devant toi. Maintenant, il est dans la présence de Dieu, il n'est plus en train de se comparer avec ses semblables, les autres hommes. Il est en train de se regarder juste dans la présence de Dieu. Il voit la sainteté de Dieu et il réalise qu'il est pécheur, c'est tout. C'est comme Ésaïe dans la présence de Dieu. Ésaïe chapitre 6, il va dire, « Oh, malheur, malheur à moi, je suis perdu. » Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Voyez la différence. Avant, c'était de dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu étais présent dans ma vie, tu me donnerais ce dont j'ai, ce que je mérite. Maintenant, c'est de dire, vous savez, je ne mérite rien. La grâce de Dieu est au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Elle est si riche envers moi, qui suis un pécheur à la grâce infinie de Dieu, qui m'a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Je suis si étonné de ce qu'un Dieu ait pu être si bon envers moi. Voyez la différence de perspective. Oui, j'étais stupide. Oui, je ne pensais pas d'une manière correcte. L'envie a déformé ma manière de penser. Alors, la vraie source de bien-être, ça se voit dans les sections qui suivent, versets 23-24. Asaph a trouvé une joie indescriptible dans la présence de Dieu. La vraie source de bien-être est la communion avec Dieu. Il s'agit de comprendre cela. On veut passer du temps là-dessus aussi, ce dernier point. Puisque j'ai parlé d'un gros problème, le premier point. Le deuxième point, c'était une expérience qui transforme l'adoration. Et le troisième point, c'est là, un bien-être profond, cette communion avec Dieu. On va lire les versets en faisant quelques commentaires. Verset 23. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. » C'est pas beau, ça ?« Je suis toujours avec toi. » Le fait d'être avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que mon Dieu veut être connu quand il dit « Je suis mon berger ». Quand il s'est révélé sous le nom de Yahweh, « Je suis » à Moïse, vous vous souvenez? Et l'idée, c'était de dire « Je suis avec toi ». Ou quand Jésus a conclu sur ces mots « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », il y a cette présence de Dieu. Il dit « Voilà, je suis là avec toi ». « Tu m'as saisi par la main droite », nous dit le texte. Quand j'accompagne ma fille Lydia à l'école primaire, elle est en CE2, elle aime que je la tienne par la main. Alors, j'ai appris qu'après, quand ils vont au collège, ça leur passe. Mais tant qu'ils sont à l'école primaire, j'en profite. Et donc, voilà, elle veut que je l'accompagne jusqu'à la porte en la tenant par la main. Parce que pour elle, ça signifie, voilà, ça c'est mon père, et il a toute mon attention. Non, pardon, j'ai toute son attention, toute son affection. C'est mon père, c'est mon papa, il est tout à moi. Alors, ça leur passe, mais vous savez, ça nous revient dans la vie. En avril dernier, Marc, 88 ans, est décédé. Il était croyant et une des choses qu'il aimait bien quand j'allais le voir, c'est que je le prenne par la main. Et ensemble, on a lu ces versets. Pour lui, c'était le... Voilà, Dieu me tient par la main. C'est bon de se faire tenir par la main. Peut-être vous êtes là avec des fardeaux qui sont lourds à porter et vous avez besoin de dire, Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. J'ai besoin de toi. Le texte nous dit, tu me conduiras. Alors, avec la santé de Jenny, par exemple, on a eu souvent l'impression d'être à bord d'un, d'un avion qui allait s'écraser dans la minute. On est là à descendre, on va s'écraser, vous savez, et ça va s'écraser même peut-être dans la seconde. Et alors on est là à prier au Seigneur et dire, mais Seigneur, tu redresses l'avion quand tu veux, hein. Et rien ne se passe, vous savez, on va s'écraser dans la seconde. Et c'est quand tu veux, Seigneur, hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? On commence à érafler le sommet des arbres, n'est-ce pas? Et on se dit, mais jusqu'à où on peut aller? Allez, ça y est, ça va, on va cracher là. On va cracher dans le sens, vous savez, ça se dit aujourd'hui. Hein. Un ordinateur qui se crache, voilà. Ben, il y a des avions qui se crachent aussi. Hein. Et donc, et là, au lieu de redresser, qu'est-ce qui se passe? L'avion prend feu et on voit même plus où on va. On ne voit même plus le tableau de bord, on ne voit même plus devant le cockpit. Et là, on se dit, mais Seigneur, forcément, là, c'est quand tu veux, Seigneur. Forcément, quand on ne voit plus rien, on ne peut que se laisser guider. Avant, on reste accroché aux manches. Avant, on est en train de dire, attends, je vais peut-être pouvoir redresser un petit peu ça. Alors, vous ne voyez plus rien, forcément. Le Seigneur peut nous guider. Parfois, on a besoin d'être dans cette situation parce que franchement, tant qu'on y voit quelque chose, on se dit qu'on peut faire quelque chose. Tu me conduis. Qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Tu me recevras dans la gloire. Quand vous pensez au ciel, quelles sont les caractéristiques essentielles? Du ciel. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Quelles sont les caractéristiques essentielles du ciel? Alors, certains vont dire absence de souffrance, de misère, de problèmes, présence de bonnes choses qui procurent du plaisir, n'est-ce pas? Alors, ces choses ne sont pas fausses, mais ça n'est pas la caractéristique essentielle du ciel. La caractéristique essentielle de l'éternité au ciel, c'est d'habiter dans la présence de Dieu, avec une intimité sans interruption, de pouvoir l'adorer. Vous voyez, ça c'est important. Habiter éternellement dans la présence de Dieu avec une intimité sans interruption, de pouvoir l'adorer. Quel autre ai-je au ciel que toi? C'est pour ça qu'il va dire ça. Quel autre ai-je au ciel que toi? Vous savez, si la caractéristique principale du ciel, c'était l'absence de souffrance, ben finalement, sur cette terre, c'est l'enfer, hein, jusqu'à ce qu'on arrive au ciel, jusqu'à ce qu'on soit délivré. Mais si la caractéristique du ciel, essentiellement, qui nous apporte un bien-être éternel, c'est d'être dans la présence de Dieu, d'avoir cette communion, finalement, je peux aujourd'hui vivre une partie de l'extraordinaire qui m'attend au ciel. Je peux aujourd'hui vivre une partie de ce trésor qui m'attend au ciel. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17. Quand il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ce n'est pas dans le futur, c'est aujourd'hui. C'est Seigneur, je peux vivre ça aujourd'hui. C'est pour ça que justement, le verset suivant, il va dire, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Vous avez réfléchi à ça? Ce n'est pas simplement au ciel, ce n'est pas simplement futur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'instant présent, je peux être dans la joie. Verset 26 nous dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Je peux avoir, ma chair, des problèmes physiques, mon cœur, des problèmes émotionnels. Ça, je peux être complètement consumé, plus rien. Et voilà que Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est puissant comme verset ça aussi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est bon, agréable, plaisant, bien-être, prospérité, bonheur, c'est ça qu'il est en train de dire. Le bien-être au profond, c'est de m'approcher de Dieu. Un professeur a une conférence, il donnait une conférence donc, à un groupe de théologiens. Et dans son discours, Il disait que Jésus n'était pas réel. Bien sûr, l'audience devient bruyante. Et à la fin du discours, un homme, un vieil homme, un pasteur, se leva. Et il s'adressa au professeur. Et en s'adressant au professeur, il était en train de mordre dans une pomme bien juteuse. Et il dit au professeur, « Mais est-ce que vous pouvez me dire, professeur, si cette pomme est savoureuse ou amère ?» Le professeur, bien sûr, a répondu, « Mais bien sûr, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas goûté votre pomme. » Et cet homme, ce vieil homme qui était pasteur depuis de nombreuses années, a dit, « Vous n'avez pas non plus goûté à mon Jésus. » Le bien-être profond ne vient pas de richesse, de santé, de renommée, mais de la communion avec Dieu. Et regardez de nouveau le verset 3 de notre texte qui dit ceci. « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et le mot « bonheur » dans l'hébreu, vous le connaissez. Je sais que vous n'êtes pas des experts en hébreu, moi non plus d'ailleurs, mais ce mot-là, vous le connaissez. C'est le mot « shalom ». En fait, à l'époque, les contemporains d'Azaph pensaient que la bénédiction de Dieu, cette paix, cette bénédiction de Dieu, le shalom de Dieu, c'était physique, palpable, immédiat, tout d'abord, richesse, santé, renommée. Et ce n'est pas là ce que nous entendons parfois dans certaines des églises. Hein, le Dieu de l'Alliance veut que vous ayez une vie professionnelle épanouie, un grand succès matériel, une santé extraordinaire. Si vous avez des difficultés financières ou des problèmes de santé, c'est parce que vous ne vous appropriez pas ce qui est à vous en Christ. Tout cela est faux. C'est faux. Je vous dis tout de suite, c'est faux. Alors peut-être vous avez entendu « Dieu, ce qui est bon, ne priverait aucun de ses enfants d'une chose plaisante et agréable. » Ah, ça devient tentant de croire celui-là. Alors, si vous définissez « chose plaisante et agréable » comme richesse, santé, renommée, c'est faux, c'est aussi un mensonge. C'est exactement le même mensonge que Satan a voulu faire croire à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu peut donner richesse, santé, renommée, mais ces bénédictions ne sont pas la conséquence inévitable d'une vie juste. En fait, ce n'est pas la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Il suffit de regarder Hébreux chapitre 11 pour s'en apercevoir. Certains vont la voir, d'autres ne vont pas la voir. Je répète, c'est important. Dieu peut donner richesse, santé, renommée, mais ces bénédictions ne sont pas la conséquence inévitable d'une vie juste. Le plus important, ça n'est pas des bénédictions physiques palpables, mais c'est la présence de Dieu. C'est ça qui apporte une vraie bénédiction. Alors j'aimerais dire qu'on a besoin de vivre cette communion avec Dieu. Et un dernier tout petit point là. Je pense que c'est important de dire que ma perspective sur la postérité et la souffrance est inversée. Parce que si je pensais que la souffrance m'apportait des choses mauvaises, en fait, la souffrance va venir souvent me faire supplier Dieu, passer du temps dans sa présence. Et donc, ça peut intensifier mon désir d'être dans sa présence. Ça peut m'apporter réellement un bien-être. Donc, finalement, la souffrance peut me rapprocher de Dieu et m'apporter un bien-être profond. Honnêtement, vous voulez savoir si j'en suis là? Si c'est acquis? Et la réponse est non. C'est pas facile d'arriver à penser comme ça. C'est pas facile d'arriver à penser comme ça. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? À parler du gros problème, l'envie, l'expérience qui transforme l'adoration, le bien-être profond, la communion avec Dieu. Vous savez, moi, ce que je suis en train de dire, c'est de vouloir vous ramener vers une communion avec Dieu, si ce n'est pas le cas. Peut-être vous êtes en train de dire, mais cette semaine, oui, je suis tiré à droite, à gauche, et finalement, je suis pas vraiment en train de passer du temps avec Dieu. C'est peut-être ça la chose au départ. L'adoration n'est pas seulement importante parce qu'elle réjouit le cœur de Dieu, elle est vitale pour les croyants. car elle apporte une juste perspective, une perspective renouvelée qui leur permet de vivre dans un monde où la souffrance existe, mais qui leur permet de vivre en se réjouissant avec un bien-être profond. Et vous aurez un témoignage convaincant, c'est la fin du psaume. Hein, il est bon pour moi de m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. J'ai envie d'en parler. Vous savez, quand on a eu des mariages ici, et souvent les incroyants qui ont jamais mis les pieds dans nos églises, ils disent, mais ça va être la barbe, hein, ça va être vraiment, c'est barbant, pourquoi on doit aller à l'église? Et puis ils s'aperçoivent qu'il y a une joie qui se dégage de cela. Ils s'aperçoivent qu'il y a une relation avec Dieu qui est là. Et j'entends parfois des incroyants dire en sortant, mais c'est vraiment le meilleur moment du mariage. C'est un témoignage convaincant. J'aimerais dire donc que cette adoration apporte une perspective renouvelée qui nous permet de vivre dans un monde où la souffrance existe, en se réjouissant avec un bien-être profond. J'aimerais vous exhorter à l'adoration et j'aimerais prendre juste une minute de silence où chacun finalement peut s'adresser à Dieu. Peut-être vous avez juste envie de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas pris ce temps récemment avec toi, je n'ai pas pris cette main tendue que tu avais vers moi, je n'ai pas été là à vivre cette communion. Aide-moi à revenir, parce que c'est ça qui va changer ma perspective. Je vous laisse une minute.